L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà pour un périple en Afrique, donc, dans tous ces états, sur FM+, qui nous accueille comme toutes les semaines. Et je me trouve en compagnie de mon comparse Jérémy Ziri. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yvonne Foucault, qui vous donnera son nom peut-être originel, qui nous vient, qui est arrivé du Rwanda, malheureusement, il y a très longtemps, et peut-être dans des conditions pas trop bonnes, ou je ne sais pas. Elle nous expliquera tout ça, et en tout cas, voilà, elle vient nous témoigner de son africanité via le Rwanda. Bonjour Yvonne.
Bonjour Marie-Claude.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
D'accord. Donc, est-ce que tu peux te dire à quel titre tu te revendiques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire te concernant? Voilà, on t'écoute.
Alors, je m'appelle Yvonne Foucault, comme vous l'avez bien dit. Muka Ntaganda. Muka Ntaganda, c'est courageuse.
Ah, d'accord.
Muka, la femme de courageuse.
Ah, super.
Donc, voilà.
Bon, bonjour femme courageuse, alors.
Bonjour, Michael.
Voilà, donc, et tu es représentant de la communauté rwandaise, je crois, à Montpellier.
C'est bien cela,
voilà.
Oui.
Et donc, je crois savoir, parce qu'on en a parlé l'autre jour avec Sarah aussi, que votre communauté est très forte, très fortement soudée. Et on peut comprendre pourquoi, peut-être on l'évoquera. Et tu peux nous expliquer cette partie, cette association dont toi, tu fais plus particulièrement partie. Ça s'appelle le CEREF, je crois.
Alors, ça s'appelle la communauté rwandaise. Oui. C'est une antenne qu'on a créée ici à Montpellier.
Oui.
Parce qu'on avait vraiment envie de se retrouver, de s'unir et surtout dans des moments comme ça, comme la commémoration ou d'autres événements qui nous rassemblent. Donc notre objectif, c'était de rassembler les Rwandais et les Rwandaises. Et alors je représente cette antenne sud. Nous sommes deux avec Elsa Lutaba. Qui représente la communauté rwandaise. Notre CRF, communauté rwandaise nationale, est basée à Paris. Et on a un président qui représente cette communauté rwandaise sur Paris.
D'accord.
Voilà.
Bon, mais peut-être que Jérémy, on pourrait demander à notre invité qu'elle nous présente, puisqu'on a parlé quand même d'Afrique et particulièrement du Rwanda, qu'elle nous explique un petit peu d'où elle nous vient comme ça, avec le soleil qu'il peut y avoir dans ses yeux.
Il serait intéressant
sa voix.
Effectivement que notre invité nous dise d'abord qu'elle se présente brièvement, depuis quand est-elle arrivée en France, pourquoi déjà, pour que les auditeurs un peu sachent un peu qui est en face de nous, qui écoute. Et puis après, l'interview va se dérouler tranquillement.
Alors, moi, je suis... j'ai quitté le Rwanda en 1996 parce que j'étais mariée à un Français, un Alsacien. Donc, je me suis mariée en 1995 et on a quitté le Rwanda en 1996. Et donc, pendant ces années, on travaillait à l'étranger. On n'est pas venu directement vivre en France, mais on travaille à l'étranger. On travaille avec Médecins du Monde. Et on a poursuivi nos missions à l'étranger. Et on a quitté définitivement l'Afrique en 2004.
D'accord.
Et en 2004, on est venu ici dans le sud, à Sète. C'est là où on a atterri. Et c'est là où nos enfants ont fait les rescolarisations. C'est là où je travaille et c'est là où on a notre vie.
Mais c'est une belle expédition en tout cas.
Oui, c'est vrai que c'est pas. C'est
Kigali,
un périple. Voilà.
Mestin du Monde, Mestin du Monde à 7.
De Kigali à 7, même, j'allais dire, Montpellier, il ne faut pas que j'exagère.
De Kigali et d'autres pays d'Afrique.
D'autres pays via d'autres pays, etc. Donc c'est vrai que ça fait un sacré périple.
Ouais.
Et donc en 1994, tu te trouvais où à ce moment-là?
Alors j'étais au Rwanda.
Oui.
C'était pendant les vacances. Donc j'allais voir ma tante. Donc le génocide s'est déroulé, j'étais chez Kigali.
D'accord.
Au Rwanda.
Tu peux nous en parler un petit peu ou c'est compliqué ou...
Oui, libre cours, hein.
Libre cours,
dis-le,
ouais,
dis-le,
ouais,
comme tu le sens.
Ouais, ouais, voilà.
Puis après, on va peut-être poser des questions pour essayer de mieux comprendre ton narratif. Mais voilà.
Alors, moi, si je vais vous parler vraiment mon témoignage, c'est un témoignage qui est très long, qu'on ne peut pas dire en deux mots.
Oui, tout à fait.
Mais donc, je peux vous le dire.
On pourra d'ailleurs peut-être, Jérémy, refaire justement quelque chose de plus long, un plus long format, éventuellement à l'occasion, si Yvonne est contente de ses intervieweurs.
Hein, mais ce qui est intéressant pour simplifier les choses, c'était nous dire un peu avant le génocide, comment tu vivais, la famille là-bas, et puis voilà.
Oui, déjà.
En trois séquences,
déjà,
avant,
oui,
pendant, et puis voilà.
D'accord.
Alors c'est vrai, c'est un témoignage que je peux peut-être vous dire en trois fois, parce que moi j'ai vécu le génocide des Bagogwe en 90. Donc ça c'est le premier génocide, donc c'est comme si on a exercé le vrai génocide de 94 en 90. Donc en 90, moi j'étais chez mes parents. J'avais, en 94, j'avais 19 ans, donc en 90, j'avais... Quel âge ?
4 ans.
Du coup, ils ont tué... Oui, non, c'est vrai. Donc, ils ont tué tout ce qui était homme, masculin. Tout ce qu'ils ont exterminé à cette époque-là, en 90, les hommes... masculin.
Et pourquoi les hommes particulièrement ?
Parce que justement, c'était pas vraiment. C'était comme si c'est. Ils exerçaient, ils essayaient de faire. C'est un génocide, on peut dire que le génocide a commencé vraiment en 90. Parce qu'ils ont exterminé les garçons, tout ce qui était masculin, pour dire. De toute façon, c'est les hommes qui fait grandir, qui fait la famille, qui donne les fruits. Dans ce moment-là, si on élimine les garçons. Il n'y aura personne qui peut renaître l'ethnie, comme on disait, l'ethnie Tutsi. Donc, si on nous enlève les hommes de Tutsi, qui allait nous donner les enfants après les enfants, renaître les familles. Donc, moi, j'ai vécu ça en 90. Et puis après, ça n'a jamais été, en tout cas, la paix, de 90, 91 jusqu'à 94. Je vivais parce que mes parents, ils nous ont protégés. Vraiment, je remercie beaucoup mes parents et je les rends hommage parce qu'ils ne nous ont jamais montré qu'il y avait un problème. Ils nous ont toujours protégés. Donc, on a vécu une vie comme d'autres enfants, mais on voyait qu'il y avait quand même des différences. On nous pointait le doigt. Toi, tu es Tutsi. Tu as tué. Donc, on voyait qu'on n'était pas comme les autres. Mais les parents essayaient de nous dire « Non, vous êtes comme les autres. Vivez comme les autres. Vous êtes des enfants comme des autres. » Sauf que dehors, on n'était pas comme les autres. Et donc les parents ne voulaient pas nous... Eux, ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais eu la paix. C'est eux qui prenaient et en nous protégeant. Mais moi, donc, mon enfance a été une enfance... Je peux dire que ça a été une enfance comme les autres. Sauf que ce n'était pas vraiment comme les autres, jusqu'en 94, où on nous a arraché les parents, toutes les familles, les frères et les sœurs, où je me suis retrouvée seule. Mais après le génocide, j'ai eu mon frère, il y a d'autres survivants. Donc j'étais pas seule. Mais j'étais seule là pendant le génocide, quand ça a décranché, il n'y avait plus personne là où j'étais. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Okay. Oui, en partie, parce qu'en fait, pour qu'arrive un génocide, ça ne vient pas comme ça. Ex cabuto, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui déclenche le génocide ? Les gens vivaient plus ou moins en parfaite entente entre eux. Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup...
Qu'est-ce qui a bousculé ?
Voilà, c'est quoi l'élément déclencheur ?
Alors, le moment déclencheur, justement, c'est que nos parents, ils n'ont jamais vécu, eux, en voulant nous protéger, c'est qu'eux, on était différents des autres. On était des Tutsis. Et le Tutsi, c'est l'ennemi qu'il fallait vraiment exterminer, arracher.
Et pourquoi les Tutsis?
Mais parce que justement, pendant la colonisation, ils nous ont divisés. Ils ont mis les ethnies, Tutsi, Hutu et toi. Donc le Tutsi, à l'époque, c'était le roi. C'est la colonisation nous a mis sur un piédestal. Ils ont mis le Tutsi au-dessus des autres. Et une fois que le Tutsi n'était pas d'accord sur certaines choses avec les colonisateurs, ils ont dit, regardez, donc ils ont tourné les choses contre les Tutsis. À ce moment-là, les Tutsis, ils ont été visés en disant qu'ils dominent les Hutus. Donc les Tutsis, ils ont été chassés du pays en 59. Ils ont brûlé leurs maisons, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient, ça a été détruit, leur vie a commencé à être détruite. En 59.
Mais selon toi, pourquoi ou qu'est-ce qui fait? Est-ce que quand vient le colonisateur belge, me semble-t-il, est-ce que c'est parce que l'ethnie qui met au-dessus de l'autre, est-ce que celui-là a collaboré, a été plus à faciliter la pénétration ou l'implantation belge? Pourquoi tout d'un coup on choisirait l'une par rapport à l'autre?
Mais justement, je vous ai déjà dit, c'est diviser pour mieux régner.
Oui,
si le colonisateur arrivait dans un pays et qu'il y a un état de roi, royaume, donc il va aller vers le roi. Le roi, c'était le Tutsi. Mais pour qu'il règne ce colonisateur et que le Tutsi, il n'était pas d'accord sur certaines choses, moi, je n'y étais pas. Ça, c'est une histoire, si vous voulez.
Voilà.
C'est une histoire vraiment du Rwanda de colonisation. Les colonisateurs, ils nous ont divisés jusqu'à ce que, justement, les Tutsis ont fui le pays en 59, même peut-être bien avant, non, c'est en 59. Et puis, ça a continué à nous diviser. À ce moment-là, quand ils ont divisé, ils ont dit, il y a les Tutsis, ils sont aussi les supérieurs, il y a les Hutus. Donc les Tutsis vous dominent. Donc les Hutus, ils ont dit non, on n'a pas envie d'être dominés. Et tout. Donc le colonisateur a tourné vraiment la situation. Puisque le Tutsi, le roi, n'était pas d'accord avec le colonisateur. Et donc le colonisateur, lui, il voulait aller vers l'ethnie qui va être d'accord avec eux. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont mis les Hutus sur le piédestal. En chassant les Tutsis du pays.
Mais ils ont instrumentalisé à leur bénéfice, à leur avantage, le pouvoir.
C'est ça.
Voilà, d'une ethnie sur une autre.
Oui, oui.
Ouais. D'accord. Oui. Et ça, moi, je ne savais pas, Jérémy, je n'étais pas trop au courant que ça avait commencé quand même plutôt en 90, cette histoire-là de génocide. Enfin, ce que nous a expliqué
oui,
tout à l'heure.
C'est ce qu'elle dit. Voilà. Moi, je l'avais déjà lu un peu.
Oui.
Mais bon, ça paraissait loin.
Même le livre, mon frère, il a écrit un livre là-dessus.
Ah oui.
Oui, oui. Sur le massacre des Bagogwe, vous regarderez. Ça, c'est un livre qui a été.
On le regardera, ça, oui.
Le massacre des Bagogwe.
On pourra en parler, si tu pourras en parler dans les références du livre pour les auditeurs qui comprennent que 90, certes, mais 94, mais avant, il y avait 90.
Oui.
Ça permettra de comprendre un peu ce qu'est la suite.
Mm-hmm.
Voilà, donc oui, pour revenir au sujet, j'avais déjà lu des trucs là-dessus, mais bon, on n'a pas eu l'écho qu'a connu le génocide de 94, en fait.
Ah oui, 94.
Voilà. Pourquoi? Bon, il n'y a que les historiens qui pourront le dire un jour. Mais c'est vrai, pour un pays comme ça, c'est toujours difficile à en parler. Parce que quand selon l'angle que tu vas aborder, tu vas être considéré comme pro, ou pro, ou Tutsi. Alors qu'on doit être détaché de ces événements-là, 30 ans plus tard.
Nous en tout cas.
Et eux aussi d'ailleurs.
C'est peut-être plus difficile pour eux, même si c'est la politique actuelle. Hein, pour nous, c'est vrai que c'est aussi important de ne pas être trop, comme tu dis, trop là-dedans. Quoi.
Tout à fait.
Là-dedans. Et donc ça veut dire que toi, toute jeune, tu t'es retrouvée à un moment complètement seule, complètement désorientée.
En 94.
C'est ce que tu nous expliquais en 94.
Ouais. Mmh. 94, c'est une histoire, moi, que j'y pense. C'est long, vraiment. Donc là où j'étais, j'étais seule. Moi, j'ai reçu une balle, moi, je m'ai jetée. Ils ont cru que j'étais morte, mais je n'étais pas morte.
Voilà, c'est comme ça que tu as pu vivre, survivre.
Voilà. Ouais, d'accord. Donc, j'ai survécu avec une blessure, mais bon, qui a été... Je ne peux pas savoir. J'ai été soignée par l'eau chaude et le sel. C'est très long, c'est comme un témoignage. Ça, vraiment. Donc, voilà, j'ai survécu toute seule. Et les autres, ils étaient tous morts. Moi aussi, je peux dire que je suis une...
J'étais censée être
morte. J'étais censée morte. Et donc, mais je suis là.
Tu es là et il paraît que tu fais des témoignages.
Je fais des témoignages dans les écoles, oui. Pour préserver vraiment la mémoire.
C'est important, la transmission est très importante.
La transmission est préservée et pour que vraiment, si on peut témoigner et que ça ne revienne plus, mais en tout cas, on a l'impression que ça revient dans le monde, mais donc on se dit plus jamais, mais c'est jamais plus jamais.
Malheureusement, comme tu viens de dire, ça revient dans le monde, ça a toujours existé, et quand est-ce que ça cessera? Et c'est vrai que l'objectif justement des témoignages aussi, on le voit bien pour tout, hein, c'est aussi de, peut-être d'éduquer, d'avoir une éducation pour les plus jeunes, les présents, quoi. Donc c'est important.
Bon là, et si on te demandait de faire un témoignage là, à la radio, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te voir, là où tu vas témoigner, de nous dire ça en 10 minutes, ce que tu pourrais dire.
Allez. Justement, je vous ai dit, mon témoignage ne peut pas durer 10 minutes. C'est vraiment long.
Bon. Donc, moi, ce que je propose, Jérémy, comme c'est un peu chaud, là, et c'est très important, je propose la petite pause musicale pour qu'on se remette un petit peu, surtout que je crois qu'elle nous a choisi un beau morceau. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu as choisi?
Oui. C'est une chanson qui s'appelle, je vais vous le dire, c'est une très belle chanson qui nous parle en tout cas et qui est belle à écouter même si on ne comprend pas ce qu'elle dit, cette dame, Nyiranyamibwa Suzanne.
Voilà.
Ça s'appelle Nyumva Mana. Nyumva, écoute-moi mon Dieu.
Ah, on va écouter. Alors, à tout à l'heure. Cette magnifique musique pour nous retrouver avec Yvonne Foucault, donc originaire du Rwanda, qui avait commencé à nous livrer un peu son témoignage voilà, concernant malheureusement ce qui s'est passé, que tout le monde, ce génocide qui a été terrible et que je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu aussi un peu douloureusement. Et donc Yvonne, hors antenne, vous aviez une conversation très intéressante avec Jérémy, hein, je dis tout, voilà, concernant justement comment on peut se retrouver blessé, voilà, miraculé presque, et comment peu à peu on peut sortir de ça et arriver jusqu'à maintenant. Mmh. En quelques mots, là, on ne va pas demander les détails, hein, mais comment ? Parce que c'est intéressant de savoir comment on peut se récupérer.
Mmh. Alors, comment vraiment je suis sortie là-dedans, c'est un miracle. Parce que je ne sais pas comment je suis sortie déjà. Mais quand ils sont venus nous tuer, on nous a tous tués, y compris moi. Mmh. Je crois que je suis morte et après je suis ressuscitée. Mmh. Et puis après, j'ai continué à courir, à me cacher, jusqu'à ce que j'arrive à la Croix-Rouge internationale. Et à la Croix-Rouge internationale, c'est là où j'ai survécu, j'ai vécu jusqu'à la fin du génocide, le 4 juillet. Et donc, jusqu'au 4 juillet, je ne savais pas si j'avais mon père, ma mère, ou s'il y avait quelqu'un d'autre de survivant. Du coup, ce qui s'est passé, mes parents, eux, ils étaient là où je suis née, mais moi, j'étais à Kigali. Moi, je suis née à Ruwengeri, c'est au nord du Rwanda. Et moi, j'étais à la capitale, à Kigali, chez ma tante. Mmh. C'est un témoignage que je pourrais peut-être vous livrer un jour, parce que vraiment, c'est très long. Mais par contre, pour me retrouver après le génocide, j'avais écrit une lettre pendant la Croix-Rouge, quand j'étais à la Croix-Rouge internationale. Il y a les journalistes de la mémoire, Minoir, de Nations Unies, qui sont passés. Et moi, j'ai pensé à mon frère, qui était prêtre à Rome, mais j'avais aucune adresse, puisque tout, on a fui, mais sans rien. Et du coup, j'ai fait une lettre, et j'ai donné à ces journalistes, j'ai dit, j'ai mon frère en Italie, peut-être que s'il reçoit une lettre à moi, il pourra me sauver. Ce que je me disais à cette époque-là. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais écrit une lettre, j'ai dit, Bideli Diogène, Rome, Italie. Il était prêtre, donc j'écris prêtre Bideli Diogène. Et la lettre est arrivée à Rome.
Miracle.
Miracle.
Le second miracle.
Donc il reçoit ma lettre. Et du coup, mais il ne pouvait pas me sauver. C'était le génocide. Il ne pouvait pas. Mais par contre, après le génocide, j'étais à la Croix-Rouge internationale. J'avais un enfant qui dormait avec moi, qu'on a reçu à la Croix-Rouge internationale, qui avait reçu une machette. Il avait 1 an et demi et je le portais. C'était comme mon enfant vraiment. Cet enfant, je l'ai porté comme mon enfant. Donc je soignais, moi j'étais guérie de ma blessure et en même temps je soignais les autres malades. Et j'avais cet enfant au dos. Et quand la Croix-Rouge de Belgique est venue me chercher, parce que mon frère, quand il a su que j'étais vivante, il a tout fait, après le génocide, pour pouvoir me récupérer, pour que je puisse le rejoindre en Italie. Et donc je vois les gens qui m'appellent, ils me disent « il y a les Blancs qui te cherchent ». Je dis « mais les Blancs, qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Et c'était les personnels de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ont dit, Yvonne Mukanaganda, c'est qui? Eh bien, c'est moi. Et cet enfant au dos, je dis, c'est un enfant que j'ai récupéré ici. Et qu'est-ce que vous en faites? Nous, on vient te chercher, toi, mais on t'amène que toi. Du coup, ils m'ont amené. Et j'ai laissé la petite à la Croix-Rouge, aux autres personnes qui vivaient. Du coup, je suis allée en Ouganda pour trouver tous les papiers qu'il faut pour pouvoir rejoindre mon frère. Ça, c'est encore un témoignage, mais vraiment, je tiens à vous le dire celui-là aussi, parce que ça m'a permis de retourner au Rwanda au lieu de partir en Italie. Donc, j'étais chez les prêtres en Ouganda, et on allait à l'ambassade pour chercher mon passeport, pour que je puisse rejoindre mon frère, et j'entends une personne derrière, qui appelle Yvonne. Je dis, mais c'est qui me connaît ici en Ouganda? Je me retourne, je vois, c'est une personne que je connais. Cette personne, elle me dit, Yvonne, tu as une petite sœur au Zaïre, à Goma. Je dis, mais t'es folle, ils sont tous morts. Elle dit, non, tu as une sœur, elle s'appelait Mignonne, donc il va falloir aller la chercher. Donc j'ai dit à son prêtre, parce que lui, il ne comprenait pas le Kinyarwanda, elle dit, mais qu'est-ce que vous dites? Parce que j'étais vraiment très heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle. Du coup, je lui ai dit à son prêtre. Le prêtre est allé à Goma chercher cette petite pour qu'on puisse repartir tous les deux en Italie. Et on n'a pas pu y aller plus tôt. Lui, il est allé. Il est arrivé à Goma chez les sœurs. On lui dit, votre petite sœur, plutôt la petite sœur, il y a sa grande sœur qui est venue la chercher. Donc ça veut dire qu'il y avait une autre grande sœur vivante. Et du coup, le prêtre revient et me dit, vous avez une grande sœur qui est venue chercher votre petite sœur à Goma. Donc ça veut dire qu'il y a 2 survivants au Rwanda. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai tout fait, vraiment. À l'époque, on envoyait les fax. Il a envoyé ça à mon frère. Donc j'ai dit à mon frère, je retourne au Rwanda, je vais voir si c'est vraiment vrai. Et c'était vrai. Je suis retournée alors à ce moment-là au Rwanda, au lieu d'aller en Italie. Je suis retournée au Rwanda, il y avait ma grande sœur, l'aînée de la famille, qui s'appelle Jeanne Nyiranzaye. Il y avait la petite sœur qui était à Goma. Et ma sœur, Jeanne Nyiranzaye, l'aînée de la famille, elle a survécu avec mes 2 petites sœurs. Donc on était elle, l'aînée, mes 2 petites sœurs et la cadette, 4, et mon frère en Italie, 5. On était 5 survivants. C'est comme ça que je suis retournée au Rwanda au lieu de partir en Italie. Et ma vie a continué. Après, j'ai rencontré mon mari en 1995. Dans ma vie, vraiment, j'ai repris la vie avec une espérance de vivre, puisque j'étais plus seule.
D'accord. Quelle histoire, Jérémy?
Ah oui, elle est très émouvante.
Oui, c'est très émouvant.
Puis, on l'a écoutée religieusement, on va dire ça comme ça. Ça rappelle beaucoup de choses. Avoir vécu directement dans sa chair ce génocide. Et puis, s'en être sorti. Puis avoir repris le dessus. Tu as parlé d'espérance. Et c'est ça qu'on va retenir dans cette histoire. Ouais, parce que bientôt, vous allez célébrer... l'anniversaire, le 30e année. Bon, l'anniversaire, comment ça se prépare, comment le comité rwandais de Paris et vous, comment vous préparez à ça, ce que vous pourrez nous dire.
Oui, alors, je vais vous le dire. On prépare le 11 mai on prépare.
Oui, c'est le 11 mai, c'est ça.
C'est le 11 mai, oui.
À Montpellier, mai. Hein, Montpellier, on parle de ce qui va se passer
ouais,
à Montpellier.
Le 11 mai, on commémore. Oui. C'est une date qu'on, pour nous, ici à Montpellier, qui est vraiment très importante pour la communauté rwandaise et tous nos amis. C'est pas, ça ne regarde pas que nous, même si le génocide a été perpétré contre les Tutsis. Ouais. Mais c'est un. Ça nous regarde tous, donc ça regarde les Rwandais en particulier, et nos amis, et nos, tout le monde. Quoi. Mmh. Donc ça se passe à Montpellier. Mmh. C'est un moment où la communauté se rassemble pour se souvenir des victimes. Donc c'est vraiment une, c'est pour rendre hommage à la mémoire et à réaffirmer vraiment cette... et l'engagement à prévenir de telles atrocités pour que ça ne revienne plus, c'est ce qu'on se dit, mais sauf que vraiment ça revienne.
C'est voilà. L'importance justement de toutes ces commémorations, hein,
oui.
De vraiment répandre ça au niveau mondial pour que ça ne se repasse plus jamais.
Oui. Et comment au pays ils ont pu réconcilier, on va dire, comment ils ont pu faire les autorités pour que les deux communautés puissent vivre ensemble malgré ce qui s'est passé.
Alors, justement, si on avait continué à tisser la haine entre nous, la guerre, c'était sans fin. Mmh. On a choisi de vivre ensemble, d'être Rwandais, et pour prévenir en tout cas cette union. Parce que si on se haïsse entre nous, on se dit mais ça c'est le Hutu, ça c'est le Troi, ça je ne sais pas quoi, ces ethnies là, c'est ça qui nous a amené le génocide chez nous. Donc on a choisi d'être, on a vraiment, oui, on est Rwandais et on veut la paix, on veut.
Oui, il y a une volonté politique et puis sociale aussi, enfin voilà, hein, du peuple aussi.
C'est tout à fait ça.
Bon, mais
tu... Oui, d'accord. Et donc, ça va se passer
Ça va se passer à Montpellier.
À Montpellier.
On a en tout cas une stèle aussi. Il y aura une stèle où on va commémorer chaque année.
C'est à quel endroit?
C'est au Jardin de la Paix.
Jardin de la Paix, voilà,
Jardin
c'est
de
ça.
La Paix, derrière la mairie.
Derrière la mairie.
Derrière la mairie.
Voilà, où il y a une stèle déjà pour l'abolition de l'esclavage, il y a une stèle pour le massacre des le génocide arménien, etc.
C'est ça. C'est un jardin de mémoire.
D'accord, et ce sera le 11.
Le 11 mai.
Mais à 14h.
Oui. Voilà. D'accord. Le 11 mai, et en tout cas, on invite chaque personne qui se sente vraiment concernée pour que les génocides, les différends entre nous n'existent pas. Pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Parce que les différences, c'est ça qui nous amène les discriminations entre nous, ça nous amène... Alors, je vais vous parler justement du massacre, le livre de mon frère, Le massacre des Bagoué, un prélude au génocide des Tutsis au Rwanda en 1990
voilà, il reprend
jusqu'à
cette
1993.
D'accord.
Voilà, donc l'auteur, c'est Diogène Widéry. Donc, si vous voulez aller le voir et se renseigner sur ce génocide des Bagoué, quand même, qui a commencé. Le génocide, pour nous, on dit qu'il a commencé en 90. Mmh. Donc, le génocide, c'est vrai qu'il a continué, mais ils ont exterminé, que ce soit femmes, hommes, en 94. Mais ils ont exercé à exterminer les Tutsis.
D'accord. Et c'est comme ça que notre président a quand même reconnu une responsabilité de notre pays, de la France quand même, qui a peut-être accéléré un peu au plan international. Il y a quand même eu des choses qui ont précipité tout ça.
En tout cas, nous on est très heureux de vous avoir reçu. Oui. On espère, parce que c'est tellement lourd qu'il faudra revenir une autre fois.
Oui, je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Et puis, le témoignage
d'Yvonne.
Et puis,
inviter tous ceux de Montpellier, d'ailleurs, de venir ce 11 mai, là, au Jardin des Mémoires. C'est bien ça.
Jardin des Mémoires, Jardin de la Paix.
Jardin de la Paix.
Et vraiment, vous êtes tous les bienvenue et si on pouvait être tous unis.
Merci infiniment Yvonne et puis donc merci à la technique, hein. Aujourd'hui c'était Adrien qui officiait, voilà, et merci à FM+ de nous accueillir comme toutes les semaines, d'accueillir l'Afrique comme toutes les semaines. À bientôt Jérémy, nous on se voit très bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci infiniment à toi.
les tirs.